agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Ô fils de Dieu, il importe que sans tarder vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent le pays d'Orient. En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs et les Arabes, ont envahi leur pays.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il y avait plus d'un million de chrétiens en Irak en 2003. Ils ne sont plus que 300 000 à y vivre aujourd'hui. Et parmi ceux-ci, beaucoup ont dû fuir la menace djihadiste du prétendu État islamique. Leurs co-religionnaires souffrent aussi en Syrie et diverses autres minorités religieuses ne sont pas moins menacées dans ces territoires bouleversés. Du même coup, le Saint-Siège se trouve confronté avec une intensité renouvelée à la question d'une riposte par les armes, une question que l'Église catholique n'a pas cessé de devoir affronter, celle du bel homme juste homme, de la guerre juste. À cette question, le pape François ne se dérobe pas. Dans un avion qui le ramenait de Corée en août dernier, il a clairement admis devant des journalistes qu'en dernière extrémité, je le cite, « lorsqu'il y a une agression injuste, il est licite » d'arrêter l'agresseur injuste. C'est la première fois depuis le début de son pontificat qu'il a justifié, tout en multipliant les précautions oratoires quant au devoir d'épuiser tous les moyens de la négociation et de proportionner la riposte à l'attaque sous des auspices internationaux, c'est la première fois qu'il a justifié le recours à la force contre la force, à la guerre défensive contre la guerre offensive et en somme la légitime défense. Depuis son origine, l'Église catholique hésite entre la fidélité aux principes énoncés dans l'Ancien Testament, et d'ailleurs abondamment contredit par celui-ci, « tu ne tueras point », et d'autre part, la tentation de la croisade. Comment définir une guerre juste quand on est chrétien? André Vaucher, ancien directeur de l'École française de Rome, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, va nous guider dans cette enquête bimillénaire parmi une infinité d'incertitudes. Pour commencer, Charles Péguy, 1913.
Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle. Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles, car elles sont l'image et le commencement, et le corps et l'essai de la maison de Dieu. Heureux ceux qui sont morts dans cet embrassement, dans l'étreinte d'honneur et le terrestre aveu, car cet aveu d'honneur est le commencement et le premier essai d'un éternel aveu. Heureux ceux qui sont morts dans cet écrasement, dans l'accomplissement de ce terrestre vœu. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés.
André Boucher, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé donc un extrait d'Ève de Charles Péguy en 1913, lu ici par Jean Deschamps. 1913, Charles Péguy sera dans un an tué au début de la Grande Guerre. Il me semble que dans ce poème fameux, où il est directement question de guerre juste, il me semble que l'on voit déjà surgir un certain nombre des thèmes que nous allons traiter ce matin.
Effectivement, il y a des paroles là, très fortes, en particulier la restriction initiale, pas heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Donc, Péguy n'est pas un belliciste, c'est un patriote. Il est attaché à la patrie charnelle, comme il dit, mais il ne conçoit pas pour autant que toute guerre soit juste. Simplement, il met en relation, en tant que à la fois patriote français et chrétien, la cité terrestre et la cité de Dieu. Mourir pour la patrie, c'est un thème ancien et bien connu, mais ça n'a un sens que pour lui, en tout cas, que si ces combats qu'on mène pour la cité charnelle ont un sens aussi du point de vue de la cité de Dieu. Voilà.
Nous allons commencer, comme il convient, par le tout début de l'Empire chrétien, qui est marqué, je pense à Origène, à Lactance, au premier père de l'Église, qui est marqué par un pacifisme affiché dans la ligne du Christ.
Tout à fait. Premier siècle chrétien, la tradition est à peu près unanime. Les chrétiens doivent éviter à tout prix de verser le sang. Et donc, l'armée, la guerre, leur sont en principe interdits. Il y a quand même très vite un changement, puisque à partir du moment où l'Empire romain devient chrétien, le problème se pose en d'autres termes.
Il faut le défendre.
Voilà, il faut le défendre. Et donc, cette première réaction, disons, antimilitariste va vite passer, même si on retrouve encore des contradictions internes chez certains auteurs qui sont hostiles à l'armée ou qui étaient hostiles à l'armée au service militaire parce que c'était l'occasion d'offrir des sacrifices. Dans l'armée, on devait offrir des sacrifices à l'empereur. Il y avait le culte impérial. Donc, ils étaient hostiles à l'armée, à la guerre, aussi parce qu'il y avait un risque de paganisme pour les chrétiens. Mais très vite, le problème se déplace. Une fois que l'Empire est chrétien, le problème du sacrifice païen ne se pose plus.
Du même coup, on retient de l'Ancien Testament moins le décalogue « tu ne tueras point » que l'image du dieu des armées qui ordonne la guerre contre les ennemis de son peuple, avec les faits d'armes accomplis par Abraham, par Moïse, par Josué, par Samson, par Gédéon, David, etc.
Oui, il y a toute la tradition de ce qu'on appelle les guerres du Seigneur, les seigneurs avec un grand S, qui sont les guerres voulues par Dieu, ou en tout cas telles que la Bible les présente, textes qui seront réactivés à l'époque des croisades. Et puis on a une autre tradition qui insiste sur le « tu ne tueras pas ». Et les deux ont toujours été, avec des proportions variables sur les époques, mais toutes les deux présentes au sein du christianisme.
C'est l'évêque de Milan, saint Ambroise, qui semble être le premier à comprendre les responsabilités qui incombent au pouvoir temporel et par conséquent est le premier des pères à justifier pleinement la guerre menée pour la défense de la patrie. Voilà déjà une guerre juste.
Voilà, ça c'est le premier, effectivement, la première prise de position claire et nette sur ce sujet, c'est celle d'Ambroise.
Contre les barbares ariens,
voilà,
il faut défendre
l'Empire d'abord parce que il est voulu par Dieu, il est dans le plan de Dieu, et puis cet empire, il est devenu chrétien, catholique, et les barbares sont des gens non civilisés et qui veulent détruire la civilisation et qui en plus sont ariens, c'est-à-dire hérétiques. Donc double raison de légitimer la guerre contre eux.
Donc on voit en quelque sorte la Pax Romana se confondre avec la Pax Christiania.
Voilà, et on va voir ça à plusieurs reprises dans le fil de l'histoire. Il faut aussi citer le rôle très important de saint Augustin.
Essentiel.
Hein, essentiel. Et notez d'ailleurs que saint Augustin ne fait que reprendre, au départ du moins, Cicéron. Parce que Cicéron avait déjà dit, à propos de la vertu de justice, il y a deux façons d'être juste, c'est d'accomplir des actes justes, mais c'est aussi d'empêcher des actes injustes. Et Cicéron donnait déjà l'exemple, si quelqu'un est attaqué injustement, si tu ne vas pas à son secours, tu es un homme injuste. Donc,
tout en insistant déjà, et c'est important pour la suite, sur la mesure à observer dans la vengeance et dans le châtiment.
Ce sera un thème aussi important, c'est le thème de la proportion entre l'offense et la réplique, et la riposte.
Quel est l'apport de saint Augustin? On le trouve résumé dans un propos qui est tout à fait conforme à la tradition, à propos de l'archevêque de Lyon, Monseigneur Billet, qui a été pour un bref temps, au tournant du XXe et du XXIe siècle, primat des Gaules, et qui, interrogé par un journaliste, s'exprime de la sorte. On est le 28 mars 1999, c'est dans le contexte de la guerre du Kosovo.
Est-ce que vous pensez, Monseigneur Billet, qu'il peut exister des guerres justes?
C'est une vieille question, celle de la légitimité de la guerre. Le recours à l'usage de la force n'est pas illégitime en soi. Lorsque, par exemple, on a recouru à tous les autres moyens possibles, lorsqu'il y a quelque chance, si on peut employer ce mot, que l'usage de la force change cette situation, lorsque, en même temps, on fait tout pour revenir à la paix, et on pourrait ajouter un certain nombre d'autres conditions.
Là, on est tout à fait dans la ligne orthodoxe, si je puis dire.
Absolument, c'est la doctrine classique de l'Église qui est résumée ainsi.
Alors après l'apport de saint Augustin, la réflexion des théologiens se développe de siècle en siècle.
Oui, absolument. Enfin, il faut attendre un certain temps avant qu'elle s'élabore, disons à partir du XIIe et surtout au XIIIe siècle. Alors c'est une réflexion d'une part des théologiens et d'autre part des canonistes, avec la renaissance du droit et des études juridiques à Bologne et en d'autres lieux à partir du milieu du XIIe siècle. On assiste à une réflexion juridique aussi sur la notion de guerre qui est extrêmement importante. Et c'est le résultat de tout cet effort intellectuel qui va amener une codification de la doctrine de la guerre juste, qui ne se confond pas avec la guerre sainte. Une guerre peut être juste sans être sainte pour autant. La guerre sainte est évidemment un des cas de figure de la guerre juste, mais il n'y a pas d'identité entre les deux notions.
Alors qu'en général, ceux qui prônent la guerre sainte considèrent que c'est une guerre juste.
Voilà, en fait, toutes les guerres ne sont pas des guerres de religion, et donc, même au Moyen-Âge, il y a beaucoup de conflits politiques dans lesquels la notion de sainteté n'entre pas.
Chez saint Augustin, on voit trois exigences fondamentales déjà pour que la guerre soit juste. Il faut qu'elle soit défensive. Ça, c'est évidemment très actuel, y compris dans les propos du pape François dans son avion retour de Séoul. D'autre part, que la guerre soit dictée par une autorité formelle, une autorité qui soit officiellement constituée et reconnue, et puis que le but final, évidemment, conduise à une paix qui soit éclairée par une justice authentique. Partir de là que la suite va développer.
Voilà, c'est vraiment le noyau dur, disons, de la doctrine qui va ensuite s'amplifier, mais sans s'éloigner de ce socle fondamental.
En quoi
la légitime défense, qui est vraiment l'argument suprême. Et d'autre part, le fait que la guerre ne doit pas être faite par n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut une autorité, une guerre juste, c'est une guerre, alors qui doit être déclenchée ou par l'Église, et donc à partir du XIIe siècle par le pape, ou bien par le prince. Donc une autorité qui ne soit pas une autorité locale. Par exemple, un seigneur ne devrait pas, même si la réalité est différente, faire la guerre à un autre seigneur. Et c'est pourquoi d'ailleurs la papauté appuiera par exemple les efforts de Saint-Louis au XIIIe siècle pour faire de la guerre un monopole d'État, un monopole de la monarchie française.
Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que la papauté se réfère volontiers à l'organisation internationale, notamment depuis la fameuse visite de Paul VI et son discours à l'ONU en octobre 1965.
Ça, c'est un thème moderne, impensable au Moyen-Âge, mais la papauté a toujours considéré qu'elle avait un rôle à jouer, disons, dans les guerres, et en particulier dans la limitation de la guerre, en essayant de diminuer, disons, le caractère belliqueux des relations entre les souverains chrétiens. Donc, ou bien le pape ordonne une guerre, ça sera le cas de la croisade, ou bien lorsqu'il y a des guerres entre chrétiens, ces guerres sont considérées comme fratricides, les chrétiens ne devraient pas s'entretuer entre eux, et donc il est du devoir de la papauté d'essayer de trouver un arbitrage.
Alors comment se développe sur 1000 ans de saint Augustin au début de la Renaissance, comment se développe la doctrine de l'Église sur la guerre juste dont nous parlons ce matin?
Il y a d'abord une pratique avant qu'il y ait une doctrine, puisqu'on a dit que les efforts pour constituer une doctrine cohérente ne sont pas antérieurs au XIIe siècle, mais il y a des pratiques. La première pratique, c'est à l'époque de Charlemagne, où se produit en Occident ce qui se produisait déjà depuis longtemps en Orient, c'est que l'Empire, l'empereur, qui est un empereur chrétien, qui est le chef de la chrétienté, est habilité à faire la guerre contre les païens, et ne serait-ce que pour leur transmettre la foi chrétienne. Donc le pape joue un rôle secondaire. À l'époque, le pape n'a pas du tout l'autorité qu'il aura plus tard. Son rôle est de prier pour le succès des victoires de l'empereur, de même qu'à Byzance, le patriarche prie pour le succès de l'empereur. Voilà. Donc on est dans une démarche de type impérial. Autour de l'an 1000, même déjà un peu avant, au cours du Xe siècle, ce pouvoir impérial, dans la plus grande partie de l'Europe, sauf l'Allemagne, se dissout. Et donc, le pouvoir royal n'est pas encore fort, même là où il existe des royautés. Et donc, l'Église se trouve amenée à jouer un rôle de substitution, voyant justement les guerres intestines se développer avec la montée de la féodalité. Et donc, on a peut-être exagéré au XIXe siècle en parlant d'anarchie féodale, mais il est certain qu'il y avait une grande violence féodale. Donc, à partir du moment où le roi ou l'empereur ne sont plus là pour imposer la paix, eh bien, l'Église s'est sentie, les évêques en l'occurrence, essentiellement, habilités à intervenir pour calmer le jeu et permettre aux chrétiens de vivre normalement.
Du coup, la question lancinante de la guerre juste ne peut que prendre plus d'importance encore, puisque le choix revient directement au Saint-Siège.
Voilà, c'est pas encore le Saint-Siège, donc au départ ce sont les évêques qui localement organisent des assemblées de paix qui réunissent tous les gens d'un diocèse ou d'une région pour essayer de mettre fin à la violence et prendre des mesures contre les violateurs de la paix. C'est-à-dire qu'on fait un pacte de paix, on amène des reliques, tous les gens présents jurent sur des reliques qu'ils ne feront plus la guerre injustement ou plus du tout la guerre. Et ceux qui, ou bien n'entrent pas dans le pacte ou le violeront, seront excommuniés ou seront l'objet de sanctions ecclésiastiques. Et leur salut, on leur dira, on leur fera savoir que leur salut est éternel et directement compromis. Donc il y a toute une activité intéressante, ce qu'on appelait la trêve de Dieu et puis la paix de Dieu, toute une effervescence, disons, entre la fin du Xe et la fin du XIe siècle, pour essayer de trouver à travers l'Église une stabilisation d'une situation extrêmement, d'une violence qui déferlait sur la chrétienté.
Cette question de trêve est de grande importance et on la retrouve dans toute l'histoire de l'Église jusqu'aujourd'hui, puisque la papauté a appelé à des trêves, même momentanées, pendant la Grande Guerre ou au moment de Kosovo, notamment à l'occasion des fêtes de Noël.
C'est ça, absolument. Il s'agit de réduire, au Moyen-Âge, c'était encore plus marqué qu'aujourd'hui, bien sûr, réduire le nombre de jours où on pouvait faire la guerre. Et donc, on commence par interdire de faire la guerre les jours saints, Noël, Pâques, etc. Et puis, on finira par interdire la guerre du mercredi soir au lundi matin, ce qui est une manière d'épargner des victimes, dans la mesure où on est autour du dimanche, jour du Seigneur, où il ne faut pas verser le sang, etc.
Donc, la guerre n'est juste en fait que quelques jours par semaine.
Voilà, on arrive à une situation. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça donnait? Il faudrait voir, mais les textes sont intéressants de ce point de vue-là. On voit une espèce de tentative de réduire le nombre des jours ouverts à la guerre, si je peux dire.
Les auteurs importants sur cette grande question, il y a d'abord le moine de Bologne, Gratien, et puis deux siècles plus tard, il y a naturellement saint Thomas d'Aquin.
Voilà, alors c'est là qu'on entre dans la codification de toutes ces pratiques. Bon, à partir du XIIe siècle, le problème de l'Église prenant la tête de mouvements de paix n'a plus de sens, parce que les monarchies nationales, surtout en France et en Angleterre, se sont redressées ou développées. Et donc, c'est le souverain ou les souverains essayent de reprendre leurs prérogatives dans ce domaine. Il s'agit de définir donc, les critères de la guerre juste du point de vue juridique et du point de vue théologique.
Il y en a cinq, alors ça se complique depuis.
Le premier, c'est la personne. Alors, c'est un problème typiquement médiéval. L'Église interdit aux clercs de faire la guerre. Donc, une guerre ne sera juste que si elle est faite par des laïcs. Bon, mais à partir du XIIIe siècle, de toute façon, il n'y a plus de clercs qui feront la guerre. Donc, c'est
Il y en aura chez Rabelais, Saint Jean des Entemures chez Rabelais.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des clercs violents, mais il n'y aura plus de guerre menée par des archevêques ou à la tête de leurs troupes à partir du XIIIe siècle.
Premier critère, persona, personne.
Deuxième, c'est l'objet. Donc une guerre est légitime si elle a pour objet la légitime défense, c'est-à-dire recouvrer des biens ou défendre la patrie lorsqu'elle est attaquée.
Voilà, troisième critère pour une guerre juste, causa.
Alors la cause, eh bien, c'est par nécessité pour rétablir la paix. En fait, celui qui fait la guerre doit vouloir toujours avoir en tête comme objectif la paix.
Ça, c'est assez fréquent chez les guerriers.
Ce qui n'avait pas
forcément... Du moment que c'est une paix à son avantage.
Voilà, tout dépend de ce qu'on entend par paix. Alors l'esprit, c'est un quatrième critère. C'est
animus.
Que la guerre soit faite sans haine. Et ça aussi, c'est un thème qui reviendra, on le retrouve encore au XXe siècle. Que la guerre soit faite sans haine, ni désir de vengeance, ni de punition injuste, etc. Voilà.
Oui, les papes.
Il y a une manière chrétienne, où il devrait y avoir une manière chrétienne de faire la guerre, je dirais, en professionnel et sans bavure.
Les papes du XXe siècle y insistent encore beaucoup dans leurs textes divers.
Tout à fait, oui, donc ça c'est une constante. Et puis alors l'autorité, qui est-ce
auctoritas.
Qui... Voilà, auctoritas. Qui est-ce qui a l'auctoritas de faire la guerre? Alors ça peut être l'Église lorsqu'il s'agit d'un combat pour la foi, alors là on va tomber sur les croisades, ou sur la lutte contre les hérétiques, ou bien par l'autorité du prince, mais d'un prince légitime. C'est pas le princeps, c'est pas n'importe qui, c'est ou l'empereur, ou les rois, ou alors le concept évoluera là aussi au fil du Moyen-Âge. À la fin, on finira par dire toute personne ayant une souveraineté légitime. Voilà. Mais ce qui est, par exemple, tout à fait injuste, c'est la guerre, je dirais, volontaire, enfin, c'est une catégorie que les calvinistes ont employée, des sujets révoltés contre leur seigneur. Ça, c'est une guerre injuste parce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas d'auctoritas, les sujets, par principe, d'emblée, quelles que soient les motivations de leur révolte, leur guerre est injuste.
Ça, ce sont les guerres intestines.
Voilà. Alors, ce que veut justement interdire, ce que cherche à interdire l'Église, c'est d'abord les guerres intestines, parce qu'elles étaient innombrables, hein, et elles faisaient d'énormes dégâts, parce que, même si évidemment, par rapport aux destructions modernes, ça paraît, les guerres du Moyen-Âge paraissent des guerres bénignes, néanmoins, il y avait à chaque fois d'énormes destructions d'habitats, d'installations agricoles, etc. Donc c'était aussi la ruine et la famine lorsque la guerre passait quelque part. Voilà.
Cela dit, quand on a défini cette grille des cinq points nécessaires pour parler de guerre juste et qu'on essaie de l'appliquer à notre époque contemporaine, on éprouve parfois quelques difficultés. Ça a été lisible et clair dès la Grande Guerre avec les efforts du pape de l'époque, Benoît XV, pour arrêter la paix, un effort évidemment complètement vain, en particulier parce qu'il ne pouvait pas facilement définir lequel des peuples avait justification à affronter l'autre. Écoutez donc cette exhortation à la paix qui est restée célèbre, tout à fait impuissante, mais célèbre, le 1er août 1917, exhortation du pape Benoît XV, lui ici par François Chaumette sur France Culture, le 29 juillet 1967.
Au chef des peuples belligérants, dès le début de notre pontificat, au milieu des horreurs de la terrible guerre déchaînée sur l'Europe, nous nous sommes proposé trois choses entre toutes. Garder une parfaite impartialité à l'égard de tous les belligérants, comme il convient à celui qui est le père commun et qui aime tous ses enfants d'une égale affection. Nous efforcer continuellement de faire à tous le plus de bien possible, et cela sans exception de personne, sans distinction de nationalité ou de religion, ainsi que le dicte aussi bien la loi universelle de charité que la suprême charge spirituelle à nous confiée par le Christ. Enfin, comme le requiert également notre mission pacificatrice, ne rien omettre, autant qu'il est en notre pouvoir, de ce qui pourrait contribuer à hâter la fin de cette calamité en essayant d'amener les peuples et les chefs à des résolutions plus modérées, aux délibérations sereines de la paix, paix juste et durable. Ce fut notre œuvre pendant les trois douloureuses années qui viennent de s'écouler. On a pu facilement reconnaître que, si nous sommes toujours restés fidèles à une résolution absolue d'impartialité et à notre action de bienfaisance, nous n'avons pas cessé non plus d'exhorter les peuples et les gouvernements belligérants à redevenir frères, bien que la publicité n'ait pas été donnée à tout ce que nous avons fait pour atteindre ce très noble but. Prêtez donc l'oreille à notre prière. Accueillez l'invitation paternelle que nous vous adressons au nom du divin Rédempteur, Prince de la paix. Réfléchissez à votre très grave responsabilité devant Dieu et les hommes. De vos résolutions dépendent le repos et la joie d'innombrables familles, la vie de milliers de jeunes gens, la félicité, en un mot, des peuples auxquels vous avez le devoir absolu d'en procurer le bienfait. Que le Seigneur vous inspire des décisions conformes à sa très sainte volonté. Fasse le ciel qu'en méritant les applaudissements de vos contemporains, vous vous assuriez aussi auprès des générations futures le beau nom de pacificateur. Pour nous, étroitement unis dans la prière et la pénitence à toutes les âmes fidèles qui soupirent après la paix, nous implorons pour vous du divin esprit, lumière et conseil.
Ce cri de paix, André Vaucher, ce cri de paix du pape Benoît XV était voué à se perdre dans les airs et à ne pas être entendu.
Oui, il a même été très mal reçu en France et même par une partie du clergé français, puisque on se réfère toujours au fameux sermon du père Sertilange, un grand prédicateur dominicain qui, dans la chaire de Notre-Dame, n'a pas hésité à invectiver le pape.
Et on a parlé aussi, c'est écrit « Gott mit uns »,« Dieu avec nous », mais en écrivant « uns », H-U-N-S, avec les « uns ».
Donc dans le climat d'exaltation patriotique de l'époque...
La même chose en Allemagne, en fait, même chose de l'autre côté.
C'était un rejet. Mais c'est intéressant parce que, d'abord, c'est un beau texte, et en plus, il s'inscrit dans une tradition très longue. Disons que au Moyen-Âge, la papauté a essayé d'empêcher les guerres entre chrétiens. Très vite, elle n'y est plus arrivée. Mais, pas arrivée à les interdire, parce que les monarchies n'ont pas tardé à devenir fortes et autonomes. Pendant la guerre de Cent Ans, par exemple, la papauté n'a pas cessé de multiplier les tentatives de médiation, de trêve entre France et Angleterre.
En vain, en général, comme en 1917.
Voilà. Et on retrouve ça au XVIe siècle, avec Mazarin, par exemple, au début du XVIIe, qui est devenu célèbre parce qu'il était nonce pontifical. Et il s'est jeté entre l'armée de Louis XIII et celle des Espagnols. Et il a obtenu une trêve au moment où allait se déclencher une grande bataille. Et il l'a obtenu en tant que représentant du Saint-Siège. Donc le Saint-Siège avait multiplié l'envoi de nonces un peu partout pour essayer d'empêcher les guerres entre chrétiens de se développer.
Donc parfois cela a été efficace.
Parfois ça a marché, il faut bien le dire.
L'espérance de l'arbitrage. D'ailleurs, cette espérance est réapparue pour des conflits mineurs à la fin du XIXe siècle, à l'époque de Léon XIII.
Voilà, Léon XIII a essayé de réinsérer la papauté dans le concert des nations, comme on dit, et de lui rendre une influence internationale. Et donc, il est intervenu entre des pays catholiques, comme l'Argentine et le Chili, qui se disputaient des territoires en Patagonie, je crois.
Oui.
Et puis, entre l'Espagne et... l'Allemagne, je crois, au sujet des îles Mariannes. Enfin, donc, il y a un certain nombre de tentatives d'arbitrage qui se situent donc dans la continuité de celle du Moyen-Âge.
Ce Moyen-Âge voit le pape, la papauté, le Saint-Siège, l'Église en général, intervenir dans toute une série de batailles, y compris à l'époque où surgit le Miles Christi, le soldat du Christ. Et puis à l'occasion de la bataille d'Hastings, par exemple, Guillaume le Conquérant.
Effectivement, à partir du moment où la papauté devient vraiment la puissance dirigeante de l'Église en Occident, donc fin 11e et courant du 12e siècle, on voit apparaître l'idée qu'il y a des guerres qui sont légitimes parce qu'elles ont obtenu la bénédiction, on peut dire, du siège apostolique. C'est le cas donc de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Et puis c'est encore beaucoup plus le cas, bien sûr, à partir d'Urbain II et de la première croisade. Sur les croisades, on a dit et écrit beaucoup de choses. Le problème de la croisade, qu'est-ce qui légitime l'entrée en guerre de la chrétienté, ou l'appel en tout cas aux chrétiens de se mobiliser contre l'islam? Ce qui le légitime aux yeux des papes de l'époque et des chrétiens de l'époque, c'est d'une part l'idée d'une agression. L'islam progresse, surtout au XIe siècle, il y a une forte poussée des Turcs seljoucides en Anatolie. L'empire byzantin est en pleine crise et risque de sombrer sous les attaques des Turcs. Et d'autre part, il y a cette idée qui sera toujours présente tout au long du Moyen-Âge que les musulmans, en fond, sont des envahisseurs. Ils ont pris aux chrétiens ce qui leur appartenait, c'est-à-dire une bonne partie de l'ancien empire romain, en particulier Jérusalem, Carthage, enfin, des territoires qui sont fondamentaux pour les chrétiens.
Donc c'est à la fois une guerre et un pèlerinage, en fait.
Une guerre et un pèlerinage, et en même temps, c'est une tentative de reconquérir. Ce qui fonde le droit de la croisade, c'est que ce sont les territoires qui appartiennent aux chrétiens, fondamentalement, viscéralement, je dirais, et qui leur ont été enlevés injustement par l'islam. Donc, ce n'est pas une guerre d'agression, enfin, c'est comme ça qu'on la justifie, en tout cas, c'est une guerre de reconquête de territoires perdus et qui étaient fondamentaux pour le christianisme. Et l'idée, en particulier, que Jérusalem et le Saint-Sépulcre, tombeau du Christ, soient entre les mains des musulmans, est évidemment une idée insupportable.
Là, on va bien au-delà de Saint-Augustin.
Alors là, on va beaucoup plus loin, puisqu'il s'agit d'une guerre sainte, et qu'il est dit clairement que ceux qui participent et qui seront tués au champ d'honneur, comme on dira plus tard, sont des martyrs, et le pape leur promet à partir de ce moment-là l'indulgence plénière, c'est-à-dire ils absout par avance toutes les fautes qu'ils auraient pu avoir commises de leur vivant.
Que ce chemin vaille pour toute pénitence.
C'est la pénitence suprême, disons-le. Aller en croisade, ce n'est pas seulement un acte de guerre, c'est un acte de pénitence, donc il y a une valeur religieuse. Et celui qui ira jusqu'au bout, qu'il arrive à Jérusalem ou pas, même s'il est tué en cours de route, dans des combats annexes, eh bien, il sera sûr, en tout cas, du salut éternel. C'est évidemment quelque chose de tout à fait nouveau.
Pour restituer ce qu'ont été les ressorts de cette première croisade, le mieux c'est de donner la parole au pape Urbain II, qu'il a lancé en 1095. Voici l'appel qui est le sien. Il est ici lu par Jean H.
Ô Fils de Dieu, il importe que sans tarder vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent le pays d'Orient. En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs et les Arabes, ont envahi leur pays. Ils s'étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens, après avoir vaincu ceux-ci à 7 reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés sous leurs coups, beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises, ils saccagent le royaume de Dieu. Je vous exhorte et je vous supplie, et ce n'est pas moi qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-même. Vous, les héros du Christ, à persuader à tous, à quelques classes de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents. Le Christ l'ordonne. Quelle honte si un peuple aussi méprisé, aussi dégradé, esclave des démons, l'emportait sur la nation qui s'adonne au culte de Dieu et qui s'honore du nom de chrétienne. Qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles, qu'ils soient désormais des chevaliers du Christ, qu'ils luttent maintenant à bon droit contre les barbares, que ceux qui voudront partir ne tardent pas et qu'ils se mettent en route sous la conduite de Dieu.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
C'était le pape Urbain II, donc prêchant la première croisade. Alors André Baucher, on est loin des précautions quant à la guerre juste des débuts du christianisme. On est en pleine guerre sainte. Et évidemment, vu d'aujourd'hui, il y a une tonalité de ce texte qui n'est pas sans intéresser spécialement.
On retrouve là des thèmes que nous venons d'évoquer, en particulier l'aide aux chrétiens d'Orient, qui est aussi un thème très actuel aujourd'hui. Les chrétiens d'Orient sont menacés dans leur existence même, donc il s'agit d'appeler les chrétiens d'Occident à une solidarité active avec les chrétiens d'Orient. Il y a aussi la reconquête des lieux saints, donc qui n'aurait jamais dû échapper aux chrétiens. Et lieux saints au sens large, c'est-à-dire Jérusalem, mais aussi des grandes villes comme Tolède en Espagne, qui avait été le siège de plusieurs conciles à la fin de l'Antiquité et dans le Haut Moyen-Âge. Donc toutes ces villes qui avaient été Carthage, qui avaient été chrétiennes et qu'il faut récupérer sur les Sarrasins.
Ce sont deux choses différentes, retourner dans les lieux saints et soutenir les chrétiens qui sont là. Napoléon III aussi le fera en 1860 ou 61 pour soutenir les chrétiens du Mont Liban.
Alors la nouveauté, c'est absolu quand même, là on peut le dire, c'est le portrait extrêmement noir de l'islam dressé par le pape qui assimile vraiment l'islam au mal. Hein. Et c'est sans Dieu. Alors là, évidemment, on est un peu étonné puisque on ne peut pas dire que les musulmans négligent Dieu. Et donc, en tout cas, ils sont présentés là, dans ce texte comme des impies.
Infidèles, la notion d'infidèle.
En tout cas, mais infidèle, c'est déjà depuis longtemps. Mais
impie, c'est pire.
Ce sont vraiment des impies. Les chrétiens sont les seuls adorateurs du vrai Dieu. Et alors, nouvelle notion, et alors là aussi fondamentale, celle de chevalier du Christ. Donc on devient, si on va à la croisade, si on participe à des activités de guerre saintes, voulues et autorisées par l'Église, on devient un miles Christi, un soldat du Christ. Donc cette notion de soldat du Christ, miles Christi, elle existait déjà sur le plan spirituel. Le chrétien, dans la mesure où il combat en lui-même contre les forces du mal, contre ses péchés, est engagé dans un combat, on appelle la psychomachie, le combat intérieur, des vertus contre les vices, etc. Bon, c'est un thème classique dans le vocabulaire et la littérature chrétienne du Haut Moyen-Âge. Mais là, on n'est plus au plan spirituel, on est au plan militaire. Et donc, les chevaliers du Christ, ils ont à se battre physiquement contre ces musulmans qui incarnent désormais les forces du mal. Alors là, on a vraiment un tournant dans l'histoire de l'Église et la spiritualité chrétienne.
Il y a d'ailleurs des scènes qui sont symboliques, métaphoriques. Richard Cœur de Lion, au moment de la troisième croisade, à la fin du XIIe siècle, à l'époque de Philippe Auguste aussi, son grand rival, Richard Cœur de Lion, dont on nous dit, la chronique nous dit, qu'il s'était fait autour de son torse un cordon de tête coupé. Et c'est le même Richard Cœur de Lion qui termine moine cistercien.
Oui, effectivement, ça aboutit aussi au massacre d'une grande partie de la population de Jérusalem en 1099, lors de la prise de Jérusalem par les chrétiens, les croisés, massacre de musulmans, mais aussi de juifs. La première croisade se termine dans un bain de sang, on peut le dire.
Sans compter l'envoi de pauvres gens qui vont emportés par je ne sais quel rêve un peu fou et aiguillonnés par les autorités ecclésiastiques qui vont aller jusque là-bas et qui finiront massacrés pour le plus grand nombre. Et puis, il y a eu aussi la croisade des enfants. Vraiment, là, on est très loin de la guerre juste.
Alors là, la croisade des enfants, c'est un mouvement que l'Église n'a pas suscité. Elle l'a même réprouvé parce que, justement, il était spontané. Mais il montre bien que l'esprit de croisade avait fini par pénétrer profondément dans les masses populaires, puisque au XIIIe siècle, lorsque Saint-Louis est fait prisonnier par les musulmans en Égypte, eh bien, naissent spontanément des mouvements populaires qui visent à aller libérer le roi et reconquérir Jérusalem. Et ça restera, l'idée de reconquérir Jérusalem, de délivrer les lieux saints des musulmans, est une idée qui va rester très très dominante jusqu'au moins jusqu'au XVIe siècle.
Il faut que nous attardions un instant, André Vaucher, sur le cas de Saint-Louis. Saint-Louis marque, incarne la fin en fait de l'esprit de croisade pratiquement.
Alors, il marque la fin parce que les croisades se succèdent. Dans la numérotation officielle, on en compte 8, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres mineurs qui n'ont pas été comptabilisés. Entre 1095 et la fin du XIIIe siècle, les croisades se succèdent les unes aux autres.
Saint-Louis part deux fois en croisade.
Et avec un insuccès croissant. Et donc, quand Saint-Louis part en croisade en 1248, c'est déjà pas un grand enthousiasme en France, mais lorsqu'il repart une deuxième fois en 1270 et qu'il va mourir devant Tunis, là, c'est un peu le désespoir, parce que on commence à avoir des doutes en Occident sur la validité de la croisade. Il y a des gens qui se demandent si c'est vraiment la bonne chose.
Il est notable que son cher et grand ami Joinville, qui a été son historiographe et qui l'avait accompagné lors de sa première croisade, refuse de venir en Tunisie.
Joinville refuse de l'accompagner et est vraiment accablé par la décision qu'il prend d'y aller. Mais ce qui est intéressant avec Saint-Louis, dehors de sa participation à la croisade, c'est le fait qu'il a essayé, pendant son règne, qui a été long et prestigieux, de jouer un rôle d'arbitre aussi, lui aussi, à l'échelle de l'Europe. Dans la mesure même où il était un souverain puissant, la France était à l'époque le royaume le plus prospère, le plus riche de l'Europe, où la personne du roi était respectée par tous, bien au-delà même des frontières du royaume. Il s'est immiscé à plusieurs reprises dans les conflits. D'abord, il a interdit et rendu impossible les guerres entre seigneurs en France. Et puis, il a imposé son arbitrage dans les querelles. Il a même fait un effort énorme pour se réconcilier avec le roi d'Angleterre. Ça lui a valu des critiques en France, mais il pensait, en agissant ainsi, mettre la paix, comme il dit, entre ses descendants et les miens. Malheureusement, la suite des événements lui a donné tort, puisque la guerre de Cent Ans a suivi 80 ans après.
Il existe un document intéressant qui est un texte qu'il a rédigé dans les derniers mois de sa vie à l'intention de son fils. Il peut sonner assez contemporain. « Cher fils, je t'enseigne que tu te défendes autant que tu pourras d'avoir guerre avec nul chrétien. » c'est ce que vous disiez, André Baucher, là on ne parle pas des musulmans, d'avoir guerre avec nul chrétien, et si l'on te fait tort, essaye plusieurs voies pour savoir si tu ne pourras trouver moyen de recouvrer ton droit avant de faire guerre. Et fasse attention, que ce soit pour éviter les péchés qui se font en guerre, et garde que tu sois bien conseillé avant de déclarer la guerre, que la cause en soit tout à fait raisonnable, que tu aies bien averti le malfaiteur et que tu aies assez attendu. Il y a l'idée du temps de la diplomatie avant le temps de la guerre.
Voilà, oui, c'était un très beau texte, effectivement, et qui annonce, au fond, des développements qui viendront un peu plus tard sur la notion de guerre juste qu'on continue à essayer d'approfondir. Et on le voit bien dans le cas de Jeanne d'Arc.
Oui.
Jeanne d'Arc, on lui a reproché, lors de son procès, d'avoir été fauteur de guerre, pas d'avoir pris la tête d'une armée, d'avoir versé le sang, et donc on a essayé de la condamner ou de la faire condamner là-dessus.
Fauteuse de guerre, on dirait aujourd'hui, voilà, sous la pression du féminisme.
Je n'osais pas mettre le mot féminin, mais peut-être le faut-il. En tout cas, elle se défend et elle sera défendue en plus lorsque on fera un procès de réhabilitation quelques années après. Les Français feront un procès de réhabilitation pour montrer qu'elle n'était pas mauvaise, qu'elle n'était pas une sorcière. Et elle se défend en disant que, d'une part, elle n'a fait que participer à une guerre de défense, parce que c'était les Anglais qui avaient envahi la France.
Toujours l'idée de défense.
Voilà.
Défense.
Et que donc, pour le salut de la patrie, tout le monde a le droit de combattre, même une femme. Parce qu'on disait, mais en tant que femme, de toute façon, vous n'aviez pas à faire la guerre. Et à partir du moment où la patrie était envahie et agressée, même une femme, même une simple femme comme moi, a le droit de faire la guerre. Et deuxième chose, ses défenseurs, lors du procès de réhabilitation, diront « elle a mené la guerre de façon juste ». C'est-à-dire qu'elle s'est toujours efforcée. D'abord, elle tenait l'étendard et pas une épée. Et d'autre part, elle a toujours prévenu les Anglais par lettre de ce qu'elle allait faire, ce qui est vrai d'ailleurs, elle a envoyé des lettres aux Anglais. Elle leur écrivait au nom du Dieu du ciel, pas, en les avertissant de ce qui les attendait. Donc, elle a mené la guerre de façon chrétienne, en évitant les violences inutiles. Sur les champs de bataille, elle éloignait aussi les ribaudes qui tournaient autour des soldats, etc. Donc, l'idée commence à se répandre qu'il y a une manière chrétienne de faire la guerre.
Voilà. On retrouve la distinction qui s'est peu à peu définie entre le jus ad bellum et le jus in bello. Le jus ad bellum, c'est-à-dire être juste quand on va vers la guerre, on retrouve la lettre de Saint-Louis, et puis le jus in bello, comment se bien comporter pendant la guerre elle-même.
Voilà, et il y a personnage très intéressant, il s'appelle Honoré Beauvais au XVe siècle, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'arbre des batailles » et dans lequel il essaye justement de définir ses façons de bien se comporter dans la guerre. Parce qu'on a compris qu'il est pratiquement impossible d'éviter les guerres, mais au moins comportons-nous en chrétiens dans la guerre.
Ça annonce déjà les échanges des pacifistes sur les lois de la guerre au XIXe et au XXe siècle.
Absolument.
Et puis alors, la doctrine continue d'évoluer et il y a cette école de Salamanque, André Baucher, qui est intéressant d'évoquer avec Vitoria, avec Suarez.
Très intéressante, effectivement, au début du XVIe siècle, autour de ce qu'on appelle l'école de Salamanque, Francisco de Vitoria, et puis un peu plus tard, le jésuite Suarez, se développe toute une réflexion à la fois théologique et juridique sur la guerre, en termes, je dirais, très réalistes, par opposition à certains idéalismes médiévaux, en disant que la guerre est un problème de droit naturel et pas de morale chrétienne. Donc, c'est déjà déplacé le problème.
On avance presque vers une laïcisation, voilà, de la question.
C'est un pas en avant vers la laïcisation du problème de la guerre. D'autre part, ce qui est très intéressant chez Vitoria, c'est qu'il développe la notion de proportionnalité. C'est-à-dire que même si la cause qu'on défend est juste, il ne faut pas répondre à une agression de façon démesurée. C'est-à-dire que si on vous fait un petit tort et que vous répondez en déclenchant une guerre féroce et sans pitié, eh bien, c'est vous qui êtes dans le tort et pas votre agresseur. Voilà. Donc la notion de juste guerre est relativisée. Et cette notion de proportionnalité va être très importante parce qu'on la retrouve dans l'encyclique de Jean XXIII, Pacem in Terris, la fameuse encyclique, on est encore à l'époque de la guerre froide, et il rappelle aux belligérants virtuels, enfin, que sont les, au moment de la crise des fusées, Kennedy et Khrouchtchev,
qui a menacé la planète
tout entière. Non seulement de guerre, mais de guerre atomique. Et il rappelle que les enjeux d'une guerre actuellement sont tels avec le péril atomique que si on ne s'arrête pas et on ne fait pas un effort de médiation, de réflexion avant de presser sur le bouton, eh bien, on risque de désintégrer la planète. Voilà. Donc il y a cette notion de proportionnalité qui est extrêmement intéressante.
On retrouve aussi d'ailleurs quand Jean-Paul II condamne la seconde guerre du Golfe et l'agression de Bush Junior contre Saddam Hussein.
Absolument, oui, tout à fait. On ne peut pas faire la guerre pour venger n'importe quelle injustice, d'une part, et d'autre part, on ne peut pas faire la guerre uniquement pour défendre ses intérêts. Et ce qui apparaît, au fond, à travers ces analyses de Victoria Suarez, c'est la notion d'un, qui va se laïciser par la suite, d'un ordre universel du monde. Il y a un ordre du monde qu'il ne faut pas perturber gravement. Il y a un bien commun de l'humanité qu'il faut toujours prendre en compte et qui est la norme ultime, finalement. Le problème n'est plus tellement de savoir si c'est juste ou injuste, mais par rapport à l'ordre du monde et à la nécessité d'une survie harmonique du monde, eh bien, comment se comporter, voilà.
On peut signaler, d'ailleurs, c'est curieux, que le fondateur du Monde, son prestigieux directeur, n'est-ce pas, Hubert Beuve-Méry, a fait sa thèse sur Victoria, je ne me trompe pas?
Absolument, oui, Francisco di Victoria et la naissance d'un nouvel ordre international, 1928, donc c'est tout à fait intéressant de voir que Beuve-Méry avait perçu l'importance de ce personnage qui, au fond, développe l'idée que l'État doit savoir renoncer à faire une guerre, même juste, si cette guerre doit entraîner des dommages très graves pour le monde entier. Et c'est un thème très moderne.
Vu d'aujourd'hui, vous avez le sentiment, André Vaucher, que le Saint-Siège a intégré cette tradition
que
jésuite Victoria.
Justement, l'intervention de Paul VI vis-à-vis de la guerre d'Irak est un rappel, même si... Les États-Unis pouvaient se considérer dans leur bon droit, et encore on peut en discuter.
La première guerre d'Irak.
La première guerre d'Irak, oui. Ça.
Après l'invasion du Koweït.
Du Koweït, c'est ça. Même
par Saddam Hussein et l'Irak.
Même si apparemment il y avait une agression, donc la riposte américaine pouvait être justifiée. Les enjeux d'une riposte américaine étaient tellement lourds, en particulier dans les rapports entre Orient et Occident, entre monde musulman et monde chrétien, qu'il aurait mieux valu s'abstenir. Et je crois qu'on ne peut pas donner tort au pape sur ce point quand on voit la façon dont les choses ont évolué depuis, avec depuis lors, la montée du djihadisme qui lui-même se réfère à une vieille tradition musulmane de guerre sainte qui est contemporaine et antérieure même d'ailleurs aux croisades du Moyen-Âge.
C'est probablement là qu'on est conduit à considérer l'attitude de la papauté à la fin du XXe siècle, à l'époque de Paul VI. J'évoquais tout à l'heure le discours de Paul VI à l'ONU en octobre 1965. Je crois qu'il vaut la peine, dans cette réflexion sur ce qu'a été la guerre juste, vue par l'Église à travers les siècles, André Vaucher, de donner la parole à Paul VI, qui s'exprime en français à la tribune des Nations Unies.
Jamais plus les uns contre les autres. Jamais plus jamais. N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est né l'Organisation des Nations Unies contre la guerre et pour la paix? Écoutez les paroles lucides d'un grand disparu, John Kennedy, qui proclamait il y a 4 ans, l'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Il n'est pas besoin de longs discours pour proclamer la finalité suprême de cette institution. Il suffit de rappeler que le sang de millions d'hommes, que des souffrances inouïes et innombrables, que d'inutiles massacres et d'épouvantables ruines sanctionnent le pacte qui vous unit en un serment qui doit changer l'histoire future du monde. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit garder le destin des peuples et de toute l'humanité. Mais tant que l'homme restera l'être faible, changeant et même méchant qu'il se montre souvent, les armes défensives seront, hélas, nécessaires.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
On retrouve cet état d'esprit dans les propos que je citais en commençant, André Vaucher, du pape François sur l'inévitabilité de certaines guerres défensives.
La dernière phrase est très claire. Les guerres défensives restent nécessaires.
Jamais plus la guerre, mais...
Mais, voilà. Cela dit, ce qui est intéressant et plus neuf dans le discours de Paul VI, c'est l'idée de recours à un organisme international pour arbitrer les conflits, ou essayer d'empêcher en tout cas le déclenchement des conflits et les arrêter s'ils sont déjà déclenchés.
Au Moyen-Âge, l'auctoritas, voilà, qui était celle du
En fait, c'est la papauté considérait elle-même qu'elle était cette auctoritas qui pouvait ou aurait pu essayer d'empêcher les guerres.
Elle est ailleurs maintenant.
Maintenant, c'est évident que c'était déjà évident en 1917 pour Benoît XV, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc, la papauté est une force morale, certes, mais enfin, elle n'a pas d'autorité. Donc, elle ne peut que s'appuyer et... C'est nouveau parce que les papes antérieurs n'avaient pas tellement soutenu la Société des Nations, par exemple, dans l'entre-deux-guerres. Là, vraiment, il y a une adhésion complète à tous les efforts pour trouver un cadre international qui doit assurer le maintien d'un ordre international qui est par définition fragile. L'ordre international est fondamental et il est toujours menacé, donc il est bon qu'il y ait une institution qui s'en préoccupe. Et ça rejoint aussi une idée alors très ancienne, on l'a déjà vu à propos de la trêve de Dieu, la paix de Dieu, l'idée qu'il faudrait, dans certaines circonstances, recourir à une armée de paix. Alors évidemment, une armée de paix, c'est très ambigu, ça peut évoquer des mauvais souvenirs lorsque les troupes soviétiques prétendaient intervenir dans les pays de l'Europe de l'Est simplement pour rétablir la paix. En fait, c'était pour rétablir la prépondérance soviétique. Mais enfin, l'idée d'une armée de paix internationale est une idée qui, aujourd'hui, s'est concrétisée, puisqu'on voit en Afrique, par exemple, des forces internationales intervenir dans tel ou tel pays, au Mali ou ailleurs, ou en Centrafrique, pour empêcher des conflits de dégénérer. Voilà. Donc, cette idée que c'est au fond à une instance internationale, l'ONU, ou à des instances interétatiques régionales, que revient le soin, le souci d'éviter la guerre.
Je voudrais d'ailleurs que nous terminions cette conversation, André Vaucher, consacrée à la notion de guerre juste vue depuis l'Église catholique, à ce que vous avez appelé tout à l'heure la laïcisation de la notion au XXe siècle. On voit s'élargir les préoccupations qui ont été longtemps celles du Vatican, du Saint-Siège. On retrouve cette idée du côté de tous les courants pacifistes qui ont notamment précédé la guerre de 14, dont on a oublié, évidemment, après coup, largement l'influence, puisqu'elles ont été défaites, ces forces pacifiques, ouais. mais qui déjà reprennent d'une certaine façon, il y a beaucoup de protestants aussi qui sont là, reprennent ces idées qui s'enracinent dans une longue tradition chrétienne.
On l'a vu pendant la guerre de 14-18, la majorité des Français étaient convaincus que la guerre et le gouvernement appuyaient en ce sens, que leur guerre était la guerre du droit, et on multipliait les conférences publiques et les interventions pour expliquer aux populations que les Allemands étaient des barbares en se fondant sur les souffrances infligées au peuple belge, la destruction de la cathédrale de Reims, toutes sortes d'actes qui étaient effectivement réels, mais que, disons, qu'on montait en épingle pour convaincre les populations que les Allemands étaient des barbares et que nous, les Français, nous étions des gens civilisés et que nous défendions la cause du droit. Oui. Donc, on retrouve un peu cette idée.
D'ailleurs, il est notable que Jean Jaurès lui-même, dans son grand livre L'Armée Nouvelle, dans plusieurs interventions, s'était forcé de toute sa passion et son intelligence pour empêcher la guerre et en même temps, on voit bien dans cette déclaration qu'il admet à la fin des fins qu'une guerre défensive puisse être inévitable si le pays est envahi.
Absolument, et on voit les efforts de l'international socialiste pour empêcher la guerre, sans y arriver d'ailleurs. On voit aussi, et c'est intéressant, alors 30 ans plus tard, le problème du pacifisme à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de pacifistes en France, d'anciens combattants ou autres, qui ne veulent pas revoir ces horreurs, et qui donc refusent par principe la guerre, et qui sont obligés rapidement, à partir du moment où les nazis pénètrent en France et installent un régime de terreur, eh bien, à ce moment-là... La plupart des pacifistes sont bien obligés, eux aussi, de s'engager dans la résistance, au moins morale et parfois armée. Voilà.
Et Beuve-Méry, que vous évoquiez tout à l'heure, qui avait travaillé sur Vittoria, et lui, très clairement anti-munichois en 1938. D'ailleurs, il quitte la correspondance du Temps en Tchécoslovaquie, précisément pour protester contre la ligne générale du journal qui s'était félicité qu'on ait cédé devant Hitler.
Et alors le thème de la guerre juste, on le retrouve dans des contextes très contemporains, en particulier toute une frange de l'opinion qui a considéré très tôt que les guerres coloniales menées par la France en particulier étaient des guerres injustes, pas que les guerres d'émancipation des peuples, y compris la guerre d'Algérie, étaient des guerres justes. Et plus largement, je me permettrai de citer un texte de Jean Daniel qui est intéressant, même s'il n'est pas sûr que l'auteur aujourd'hui le reprendrait à son compte.
De quand date-t-il ?
Voilà, il date de 1979, dans l'ère des ruptures. Nous avons tous sur la violence un lot commun de contradictions. Nous sommes contre la guerre, mais pour la révolution, nuançons, nous sommes contre les guerres injustes, celles qui servent le capitalisme, et pour les révolutions justes, celles qui visent à l'abattre. Le problème, c'est que les révolutions justes, parfois, ont dégénéré en régimes injustes, et que donc on retrouve le problème de l'injustice et de la nécessité, parfois, de réagir par la violence face à l'injustice.
Et bien voilà qui conclut fort bien, me semble-t-il, André Vaucher, cette conversation sur cette émission consacrée à la guerre juste, vue depuis la chrétienté. Vous avez récemment publié, tout récemment, aux éditions du CNRS, un livre consacré aux hérétiques au Moyen-Âge, « Suppôts de Satan » ou « Chrétiens dissidents ». Est-ce que dans ce monde-là, la notion de guerre juste ou injuste a été très présente ?
Absolument, puisque les hérétiques sont considérés à partir du XIIe siècle comme un véritable danger pour la chrétienté. C'est justement la notion de chrétienté à ce moment-là émerge. Chrétienté qui est l'Église, mais qui est aussi la société chrétienne dans son ensemble. Alors, à partir du moment où société dont la religion constitue l'idéologie, c'est un peu une situation comparable à celle qui existe dans l'islam du Moyen-Orient, par exemple, hein, où l'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi une société. Et donc, cette société se défend contre toute forme de contestation externe, bien sûr, mais aussi interne.
Dans le cas des Albigeois, on voit que le pape Innocent III a considéré qu'il était pire d'être hérétique que d'être sarrasin quand il a envoyé ses troupes à l'assaut de ce peuple pour l'écraser. Simon de Montfort, après l'assassinat de son légat, Simon de Montfort, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Je ne sais pas si c'est une guerre juste ou injuste.
Eh bien, à partir du début du XIIIe siècle, on voit justement s'affirmer cette idée que la chrétienté est agressée. Elle est agressée du dehors par les sarrasins, les musulmans, et elle est agressée du dedans, ce qui est pire encore, parce que ce sont des traîtres, par les hérétiques, par les mauvais chrétiens,
ceux qui
croient autrement que l'Église. Donc, il est tout à fait légitime aux yeux des papes et de l'Église du temps, de réprimer cette hérésie, y compris par la force, d'où la croisade des Albigeois et ensuite l'Inquisition, car on ne peut pas laisser se gangréner le corps de la chrétienté, et donc il faut éradiquer au sens le plus concret du terme, ces gens qui pensent ou qui croient mal.
Et la guerre juste, du coup, élargit grandement son emprise,
voilà.
Et ses frontières.
Alors ça, c'est une guerre qui, du point de vue de l'Église, ne pose aucun problème, puisqu'il s'agit de défendre la foi étant le bien le plus précieux, eh bien, il est évident qu'il faut la défendre, y compris en versant le sang.
Vous avez réédité récemment, André Vaucher, un livre qui s'appelle « Les laïcs au Moyen-Âge, pratiques et expériences religieuses », aux éditions du CERF, paru en 1987 pour la première fois. Je voudrais également citer, vous trouverez bien sûr d'autres ouvrages sur notre site, je voudrais citer le livre de Philippe Contamine, grand spécialiste de la guerre au Moyen-Âge, c'est le titre d'un de ses ouvrages, paru aux presses universitaires de France en 1980 et plusieurs fois réédité. Et puis Jacques Le Goff, qu'il faut toujours évoquer sur ces questions, notamment les articles qu'il a donnés à l'histoire sur ces questions. Et puis son recueil d'articles qui s'appelle « L'Europe est-elle née au Moyen-Âge ?» paru au Seuil en 2003 et qui comprend précisément des réflexions sur ce thème de la guerre juste. Vous trouverez, outre la bibliographie que j'évoquais, des références, des documents sonores que nous avons utilisés sur le site de Concordance des temps, et vous pourrez également écouter, réécouter et naturellement télécharger cette émission. Samedi prochain, à propos des débats sur la réforme régionale, débats qui sont en cours et qui sont, comme vous le savez, virulents, je recevrai Hervé Lebras, démographe et historien, sur le thème « Comment découper la France ? Comment l'a-t-on fait depuis au moins le temps de la Révolution ?» C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Nathalie Lempereur, de Jeanne Guérou, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Yanis Djoudad, avec à la discothèque Romain Couturier et pour les archivinas Isabelle Fort-Rendu. Et dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Dominique Rousset pour l'économie en question. Dominique Rousset avec ses invités, économistes éminents. À vrai dire, ils le sont tous.